Vous avez tous et toutes déjà dû entendre des phrases du genre « Vis ta vie, fuck les avis, YOLO, carpe diem, on sait pas de quoi demain est fait, alors autant faire ce qu'on veut faire ». Toutes ces phrases qui, bien que clichés, symbolisent toutes une chose, la liberté d'être, de faire, de dire ce que l'on veut, sans se soucier de l'avis des autres, qui n'apparaît alors que comme un parasite à toutes les envies et les possibilités que nous avons. Et les réseaux sociaux, récemment, avec leurs trends où l'on voit ces gens qui chantent dans le métro en se mettant en scène, les autres qui dansent, qui font des pranks délirants, tout ça semble accentuer ce mantra de « je m'en fiche du regard extérieur, je suis libre, donc je suis ». Et bien qu'à de nombreux égards, du positif sort très largement de cela, parce que des gens osent enfin, osent plus, s'assument, s'affirment plus, du négatif peut en sortir aussi pour ceux en décalage ou ceux un peu plus sceptiques. Peut-on vraiment se ficher des autres et de leur avis ? Peut-on vraiment avancer en faisant abstraction de la peur de décevoir par rapport aux risques que l'on prend, aux choix que l'on fait ? Est-il si facile d'être qui on est ? Ces garde-fous que sont les autres et leur regard est-il nécessairement toujours mauvais ? C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui dans l'épisode 3 de la saison 2 du podcast Summer Talk avec Rouliette. Alors partez pour une petite balade ou restez assis confortablement et c'est parti. Bonjour à toutes et à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode qui n'est pas des moindres, comme vous avez pu le voir, qui est assez mastodonte et qui va être raconté, on va dire étudié, avec une guest que je suis très heureuse de vous introduire, à savoir May. Bonjour May.
Bonjour.
Bonjour May, André, on est sur France Inter. Bonjour May.
Bienvenue sur la matinale.
Alors May, c'est la grande sœur de Lou qui est venue sur mon podcast la semaine dernière. May qui a 30 ans.
C'est important.
May 30 ans, c'est la seule, il n'y a pas d'autre qualificatif. Et qui bien sûr, que vous pouvez retrouver sous la chaîne Méline et Lou, donc sur YouTube, et sur le compte Instagram éponyme également, Méline et Lou. Donc May, c'est une de mes amies les plus proches, j'ai réécrit Sœur de Lou au cas où je l'oubliais, Sœur de Lou, que je considère même proche au stade de la famille. Et parce que sur bien des points, May a toujours eu la bienveillance, l'écoute, le recul et la sagesse. Et franchement, d'une grande sœur, qu'une grande sœur peut avoir même, je me suis dit que ce serait un très beau cadeau que de vous en faire partager les fruits sur un sujet aussi insidieux que comment se ficher de la vie des autres et vivre la vie qu'on veut, même si par moments cela implique d'emprunter des chemins que les autres ne voient pas d'un bon oeil. Alors là, je vais vous faire un petit spin-off donc de la vie de May, qu'elle me dira à la fin si elle est ok ou pas, pour vous mettre le contexte et ensuite avancer directement sur cette problématique, parce que vous allez le voir, ça s'y prête plutôt bien. Donc, j'ai redit May a 30 ans. Je commence comme ça. May a 30 ans. On dirait pas, mais c'est le cas. premier enfant de tes parents, aîné donc de la fratrie avec Lou, tu es une enfant relativement normale. Tu fais pas de vagues, tu réussis convenablement à l'école, en sport à côté, avec le twirling notamment quand t'es petite, qui va te mener avec ta sœur en championnat, si j'ai pas de grosses bêtises.
Oui.
Tu te fais des amis à l'école, même si déjà à l'époque t'étais une grande introvertie. Et puis au collège, tu continues de mener ta barque, mais tu te rends compte, et tes parents aussi, de plus en plus, que le système scolaire, c'est pas ton gros kiff. Que si très vite tu t'épanouis dans la lecture, dans l'écriture, dans la photo, dans les films, la musique, les voyages, l'anglais, l'école pas tellement. On va donc finir même par te mettre sur la table la question de l'internat, qui à l'époque, je sais pas si c'est toujours la même chose à l'heure actuelle, était vraiment considérée comme la punition, l'épée de Damoclès au-dessus de la tête des « mauvais élèves » entre gros guillemets. Sauf que là, la grande surprise de tout le monde, et après entretien avec le proviseur du lycée, internat en question, c'est toi qui vas dire « je veux y aller ». Tu y passeras donc le reste de ta scolarité, en ne rentrant plus que les week-ends dans ta famille, auprès de tes parents, ta sœur et de tes chiens. À la fin du bac, où tu réussis sans surprise assez brillamment tes épreuves de langue, de littérature étant tes spécialités, tu t'orientes en fac de langue justement. Un endroit, c'est bien ça.
Alors, j'ai commencé par une autre fac.
Ciné ?
Ouais.
Art du spectacle, et ensuite fac de langue. Un endroit où là, cette fois, ce sera une évidence à laquelle tu pourras plus échapper. Le cursus scolaire classique, théorique, français, c'est pas pour toi. Tu dis ciao sans... C'est ciao, je vois toujours ciao. Ça quand je dis ciao. Tu dis ciao sans un regard en arrière. Et assez autonome, tu te mets à travailler en suivant. Babysitter, taf alimentaire. Si tu assumes que ta vie ne se poursuivra pas en fac, en études supérieures, tu la laisses pas non plus te filer entre les doigts. Jusqu'au fameux jour où ta petite sœur, elle aussi désormais en études sup, rentre de l'école et te dit « Viens, on plaque tout et on se barre un an en PVT à l'étranger. J'en peux plus. » Grossièrement, je crois que c'est ça. Cette décision, c'est le début d'un grand tournant, puisque vous allez partir en Corée du Sud en 2018. Mm-hmm. Donc toi, tu as à ce moment-là 25 ans.
24.
Je suis 24, ok. Et Lou, du coup, 21. Ouais. Donc voilà, vous partez en Corée du Sud, vous allez lancer votre chaîne YouTube autour de ça, à la base, autour du voyage. Vous allez lancer vos réseaux de manière générale. Tu vas y rencontrer ton copain actuel et plus tard, tu vas continuer du coup YouTube avec ta sœur. Tu vas te spécialiser dans ça, tu vas en vivre en fait. Tu vas te lancer dans le crochet même. Tu vas devenir si bonne que tu vas ouvrir la boutique où tout est sold out en 10 minutes. Donc on est un peu sur un blood, sweat and tears. Enfin, après le blood, sweat and tears, le succès. Tu fais enfin le travail de création qui te correspondait avec la personne que tu aimes le plus au monde comme associée, ta petite sœur, et tu en vis. C'est ce que j'ai appelé jusque-là le succès. Et si on a presque envie de boucler l'histoire et le podcast à ce happy ending, est-ce que ce serait pas intéressant de savoir en fait à quel prix celui-ci peut exister à l'heure actuelle, au nom de quel sacrifice, quelle difficulté, quelle prise de parti et prise de tête tu as dû affronter, quelle prise de confiance aussi tu as dû avoir par moment où les gens l'avaient pas pour toi ou à ta place. Et si tout est vraiment si stable que ça, au final, quand bien même à l'heure actuelle, tout semble rouler. Car n'y a-t-il pas toujours des failles dans la self-confiance, même à 30 ans, après de tels accomplissements ?
Waouh ! 7 minutes au compteur, ok ? Je peux faire un épisode Netflix, là, actuellement.
Ça avait beaucoup de questions. On va commencer par la première, s'il te plaît.
Est-ce que...
Simplement.
Non, là, c'était juste genre... Ça, c'est mon côté droit, tu vois. Genre, je mets plein de questions, comme ça, j'oriente. Oh là là, qu'est-ce que c'est ? Non, là, c'était vraiment juste un tableau de fond. En gros, c'est tout ce qu'on va aborder.
C'est genre, bah, tu poses toutes les questions et ensuite, tu tends le micro, genre, bah, vas-y, c'est ton moment.
Est-ce que... C'était plus en mode un tendage de mic de... Est-ce que tu es d'accord... Juste sur les éléments, après bien sûr on va rentrer dans le plus profond. Est-ce qu'en tout cas j'ai assez bien répertorié les éléments ? Est-ce que tu as des choses à préciser ou à revenir dessus ? Juste en termes de, bah, tu vois comme la fac, tu avais d'abord fait hors du spectacle ou quoi ? Ou tout te semble assez cohérent dans le simple quoi, dans la présentation ?
Non, globalement c'est bon, on va pas venir dans les détails de toute ma vie parce que sinon on en a pour 30 ans. mais non, globalement c'est ça.
Ok, alors j'ai commencé du coup, parce que j'ai des questions, mais j'ai commencé avec une. C'est qu'est-ce que c'est pour toi, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, se ficher de la vie des autres ?
Je te jure que ton tendu de micro, il est incroyable. Je suis sur un tapis rechissé. Alors le dernier film,
je filmerai ça un jour, mais c'est vrai que je tends vraiment le mic en mode, à vous la régie.
En fait, se ficher de la vie des autres, je dirais pas ça parce que je m'intéresse quand même à la vie des autres. S'il y a de la réflexion derrière, tu vois, si c'est positif, dans ce cas, genre, je m'en fiche pas de la vie des autres, je m'en fiche pas de ce qu'ils pensent, tu vois. Mais en fait, je pense qu'il y a des niveaux. Il y a des niveaux à tout, tu vois.
Donc pour toi, tu fais une distinction entre quand on dit se ficher globalement de la vie des autres, t'es d'accord que ce qu'on entend, c'est la vie négative, c'est le côté non, fais pas ça, c'est pas bon pour toi, mais qui est pas forcément construit. Et toi, tu fais une distinction entre justement un avis. Construit par exemple de tes proches, des gens qui te veulent du bien, qui te connaissent et qui vont te dire je pense pas que tu sois faite dans ça, mais pas pour te brider, mais juste parce qu'on, je sais pas, on te connaît, on sait là où tu peux aller, etc. Et la vie de personnes en fait qui te connaissent pas. Mais justement, est-ce que c'est pas plus difficile de se ficher de la vie des autres quand il s'agit de gens qui sont ta famille ? Est-ce que forcément, c'est parce que les gens te connaissent et te veulent du bien, tu vois, en te disant ces choses de manière construite, qu'il faut nécessairement les écouter ? Genre, ça fait genre je t'induis une réponse, mais c'est pas... je suis libre.
Ah non, mais par contre, genre, c'est pas parce que c'est mes proches et qu'ils m'aiment et qu'ils... Enfin, ils care about me, tu vois, qu'ils vont avoir toujours un avis que je vais prendre en compte et que je vais accepter, tu vois. Mais pour moi, ça fait plus sens quand c'est quelque chose qui est posé, réfléchi et où ils m'expliquent, en fait, leur opinion. Pourquoi, en fait, ils pensent ça et pourquoi ce serait pas bon pour moi ou bon pour moi ou quoi que ce soit, tu vois. C'est... Enfin, faut que ça ait du sens, tu vois.
Mais dans cette dimension de, entre guillemets, pour clôturer cette définition de se ficher de la vie des autres, qu'est-ce qu'on entendrait par se ficher justement de la vie, même bien pensant de ta famille, qu'est-ce que ça symboliserait ? Est-ce que c'est forcément négatif, justement, de faire la part des choses, de se dire, j'entends, mais je n'en veux pas ?
Enfin, c'est compliqué, en fait, de pas prendre en compte du tout la vie de tes proches, je pense que c'est compliqué, tu vois. Ça va forcément te toucher à un moment, même si tu veux pas l'accepter. Je pense que c'est quand même hyper compliqué de processer le truc en toi et de te dire, genre, en mode, cette personne me connaît par cœur. Bon, on connaît jamais personne, quelqu'un par cœur. Mais cette personne me connaît très très bien, me donne son avis, mais en fait, faut pas que je le prenne en compte parce que je sais que, moi, au fond de moi, tu vois, je sais que non, c'est pas une opinion à prendre.
Et est-ce que t'as toujours eu le même rapport, en fait, avec cette question de se ficher de la vie des autres? Est-ce qu'il a évolué avec les âges, avec les choses que t'as traversées? Est-ce qu'il y a des épreuves de vie qui t'ont fait évoluer sur ça, tu vois?
Mais je pense que c'est un peu comme tout le monde, tu vois. Déjà, quand t'es petit, en fait, tu suis la vie de tes proches, de ceux qui t'entourent, parce que bah, t'as pas ta propre réflexion, encore. Quand tu grandis et que tu commences à avoir cette propre réflexion, c'est ton adolescence. Donc forcément, tu vas contre cet avis. Donc avec mes parents, c'était un peu compliqué, dans le sens où moi, j'étais... Même si je faisais pas trop de vagues, pas trop de bêtises et tout, j'en faisais quand même. Et c'était compliqué parce que j'avais quand même une relation conflictuelle avec mes parents. Et ce conflit, bah, ça venait complètement de moi parce que c'était mes parents, que je les écoutais pas, tu vois. Et du coup, c'était l'avis de mes parents, principalement, que je n'écoutais pas. Tu vois, par rapport à l'entourage amical, je pense qu'on n'était pas encore au stade de se donner un avis, genre, à proprement parler sur les choses, alors que c'est vraiment ta famille qui te voit évoluer en tant que personne. C'est mes parents qui m'ont vu dans le milieu scolaire, dans le milieu privé, tout ça, qui m'ont vu évoluer et qui me donnaient leurs avis. Enfin, je dis pas qu'ils avaient tout le temps raison ou tout le temps tort, tu vois. Mais moi, j'allais contre cet avis-là et c'est plus, je pense, en évoluant seule. Donc ça veut dire à la fac, après la fac, partir en voyage, tout ça, rencontrer d'autres gens, qui m'a fait évoluer, qui m'a fait me construire moi-même, en fait, par rapport à tout ça, tu vois, et me dire, en fait... l'avis des autres peut être très constructif, faut juste que se poser et réfléchir, tu vois, pas tout prendre au pied de la lettre. Et parce que moi, j'avais tendance à me braquer hyper facilement quand j'étais plus jeune, maintenant beaucoup moins.
Est-ce que t'as le sentiment que justement le fait de te braquer, le fait d'avoir eu ce rapport conflictuel avec tes parents, que par exemple ta petite sœur n'a pas du tout eu, et où moi je disais, genre, on en a toujours beaucoup parlé toutes les trois, parce que moi aussi j'ai une grande sœur qui est plus jeune que May, mais bref, avec qui j'ai 4 ans d'écart, qui est mon aînée. Et je disais, genre, il y a eu le même schéma, pour des raisons différentes, où les grandes sœurs ont eu ce côté conflictuel, ont remis en question l'autorité, les limites, les points de vue, et où nous, les petites sœurs, on s'est acheté la paix, entre guillemets, à ne jamais questionner la vie de nos parents, à toujours suivre, à toujours être dans le moule. Est-ce que pour toi, c'est quelque chose qui s'est aussi fait parce que t'étais la première enfant, parce que t'étais l'aînée? Est-ce que tu l'as ressenti comme ça? Ou c'est juste quelque chose qui naturellement va être plus, je veux dire, spontané chez des personnes? Parce que tu vois, à l'heure actuelle, moi, je commence à avoir ce mojo de pensée de me ficher partiellement, comme on l'a dit, avec, comment dire, précaution de la vie des autres. Ouais. Mais je ne l'ai pas eu pendant très longtemps. Est-ce que tu l'as ressenti parce que tu étais l'enfant aîné?
Je pense que c'est ça. Hein. Je pense que c'est parce que tu es l'aîné, parce que tu testes les limites et que tu n'as pas d'exemple au-dessus de toi. Pour te dire, genre, en mode, là, c'est la limite, les parents, ils accepteront pas. Donc, c'est à toi, entre guillemets, je pense que ça vient très, très naturellement, de tester les limites de tes parents, de savoir ce qu'ils vont accepter, ce qu'ils vont pas accepter. Et le fait d'avoir une petite sœur, c'est que la petite sœur va justement faire l'inverse de ce que toi, tu fais. Parce qu'elle voit comment les parents réagissent à certaines choses. Et bien sûr, quand t'as un minimum de sens, et ben tu ne fais pas la même chose. Donc je pense vraiment que c'est le côté aîné qui prend le dessus parce que tu sais pas. T'as pas de grande sœur, t'as pas de grand frère, t'as personne au-dessus de toi pour voir, tu vois. Et pareil pour les parents, tu vois. Les parents, c'est leur premier enfant. Donc c'est aussi ça qui leur apprend aussi comment être parent, tout simplement, tu vois. Toi, t'apprends à être un enfant, un aîné, et puis les parents apprennent à être des parents tout au long de
leur vie.
Ouais, de leur vie, et puis de ton évolution, tu vois. Donc non, je pense que c'est vraiment le côté aîné, en fait, qui prend le dessus.
Et du coup, j'ai fait un petit paragraphe que je trouve intéressant. C'est que pour moi, t'es l'une des personnes dans mon entourage qui se caractérise le plus par ce recul que tu as sur la vie des autres, par ce détachement, sans être totalement détaché des gens qui t'entourent, bien évidemment, ou de loin comme de près, enfin, genre des proches comme ben, des gens, par exemple, de ta communauté, vu que t'es sur YouTube, etc. Bref, d'aussi loin que je me souvienne, ça a toujours été quelque chose que moi j'ai admiré chez toi, et je te l'ai souvent beaucoup dit, tu vois, genre... J'étais de l'admiration parce que je comprenais pas comment c'était possible que quelqu'un puisse se détacher autant du regard et du jugement. surtout dans la sphère proche. Parce que moi, j'en ai jamais été capable jusqu'à là, il y a très peu. Et c'est toujours difficile, tu vois, de me dire, par rapport à mes amis, ben ouais, ben s'ils m'aiment pas comme je suis, ben tant pis. Tu vois, des trucs comme ça. Même en amour ou en famille ou pro, etc. Et parce que voilà, comme je dis, moi, je suis vraiment très conditionnée par la vie des autres. Parce que j'ai misé ma validation personnelle sur autrui, sur autre que moi. Ce qui, d'ailleurs, au passage, est très mauvais. Il ne faut pas reposer sa validation personnelle sur les autres, nous sommes bien d'accord, mais qui est très courant, surtout avec l'arrivée des réseaux sociaux, où on se compare à tout le monde, où on a ce besoin de validation, je sais pas, par rapport à nos outfits, par rapport à notre morpho, par rapport à notre fame, genre des trucs vraiment assez, assez fous. Et du coup, au final, ce rejet de dépendance à la vie des autres, et donc à la potentielle validation d'autrui de qui tu es toi, c'est affirmer qu'on se suffit à nous-mêmes et qu'on s'attribue à nous-mêmes la valeur en fait qu'on veut. Enfin, positive ou négative, dire là j'ai fait bien, là j'ai fait mal, tatatitatata. Mais c'est quelque chose que tu fais de toi à toi. Et est-ce que tu te souviens, voilà, parce que t'as été l'aîné, parce que si, parce que ça, est-ce que tu te souviens de la première fois ou des premières fois où tu as rejeté tout ce système pour te fier à toi-même et à ton jugement et à te dire là, j'ai pas envie de les écouter. Genre franchement, ça fait pas sens. Là, je prends confiance en moi pour me dire je vais avoir foi en fait en qui je suis, tu vois.
En vrai, je pense que tu l'as dit dans ta jolie présentation de ma personne. je pense que c'est vraiment le moment où je me rends à l'internat pour ce rendez-vous avec mes parents et où je pense sincèrement que mes parents, ils étaient en 50-50, tu vois. Genre en mode, vas-y, on prend ce rendez-vous pour lui faire peur, mais on prend ce rendez-vous parce que si ça se trouve, ça va peut-être fonctionner pour elle, tu vois. Et en fait, en parlant avec ce proviseur, ce adjoint proviseur, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était peut-être ce dont j'avais besoin et que je m'en rendais pas compte, tu vois. Parce qu'en fait, quand tu menaces quelqu'un, c'est souvent quelque chose qui est négatif, tu vois. Genre en mode, on va te dire, ouais, tu vas plus sortir pendant 2 semaines, oui, tu vas plus avoir de téléphone, machin, oui, tu vas aller à l'internat, tu vois. Donc moi, je voyais ça de façon très négative les 2 dernières années de ma vie, où il me disait, ouais, de toute façon, tu vas finir en internat, t'as pas de bonne note, machin et tout. Et en fait, je l'ai pris dans l'autre sens. Je pense que c'est vraiment à ce moment-là que j'ai commencé à réfléchir là-dessus, et où je me disais, en fait, ça se passe mal avec mes parents, ça se passe mal aussi avec Lou. On n'avait pas une relation de dingue à ce moment-là, tu vois, on ne s'entendait pas. Et c'était à cause de notre génération, de notre gap de génération, tu vois. Donc, c'est soit genre en mode, je dis non, vas-y, j'ai pas envie d'y aller, non, je veux rester en ville, blablabla, tu vois. Et en fait, je restais dans cette espèce de conflit permanent avec mon entourage. Ou alors, je faisais le pas et je me disais, en fait, peut-être que l'indépendance, ça me fera du bien. Et peut-être que, justement, l'éloignement à tout ça, tu vois, bah, ça nous fera du bien à tous. Parce que bah, j'étais dans une période où j'étais clairement chiante, hein, clairement chiante. Donc c'est pour ça que j'ai dit bah vous savez quoi, je vais y aller en fait. Et c'était peut-être aussi un peu, tu vois, de la recherche de comment on dit. Genre, tu sais, je pense que j'essayais aussi quelque part de faire réagir mes parents en leur disant ça. Genre
de en mode. Prouver, c'était encore une fois ouais, de la confrontation, quoi.
Oui, c'est ça, c'était quelque part de la confrontation et quelque part de la prise de confiance en moi, tu vois. Où je me disais, en fait, il faut que je le fasse. Il faut que je le fasse parce que là, c'est ma décision. On me demande à moi, pas à mes parents, tu vois. Et je pense que c'était la première fois qu'on me posait la question à moi, tu vois. Qu'est-ce que tu veux, en fait? Et c'est pour ça que j'ai dit au proviseur, bah, ok, je vais venir. Je vais le faire.
Ok. Donc. Est-ce que tu as d'autres fois à dire ou c'est celle-là qui majoritairement a entraîné les autres?
Bah, je pense qu'après, tu vois, il y a le développement, tout ce qui s'est fait au lycée et tout. Et là où j'ai vraiment pris mon indépendance, c'est vraiment l'internat. Parce que j'étais seule toute la semaine, je rentrais que chez mes parents le week-end et ça m'aidait énormément. Et après, j'avais beaucoup moins de conflits. Donc c'est vrai que la confiance en moi, je pense que je l'ai eue à partir de ce moment-là, tu vois. Même si elle s'est développée encore et encore au fil des années. Je pense que c'est ce moment-là vraiment qui... Enfin, c'est un des moments qui a marqué vraiment un petit tournant dans ma vie, je pense.
Ok. Et du coup, parce que je disais, en fait, comme on vient de l'expliquer, ce mood de pensée où t'as un peu pris le truc à contre-pied, tu vas te dire, bon, bah, je vais plus faire ce qu'on attend de moi, mais ce que moi, j'estime attendre de moi-même, tu vois. Dans le cas présent, bah, te dire, bah, je me mets de côté. Oui, il y avait un petit côté confrontation avec tes parents, mais au final, tu savais que ça allait faire du bien à tout le monde, toi la première. Du coup, ça a été un peu en réaction. Enfin, mécanisme de défense, c'est un grand mot. Mais comme tu dis, c'était un mécanisme de défense dans le sens où, jusque-là, t'étais pas incluse dans les prises de décision et où là, pour la première fois, boum, quand je décide de m'écouter moi et pas forcément les autres, et bien du coup, je peux servir mon intérêt directement, quoi, sans passer par un intermédiaire ou un « mes parents pensent que c'est mieux que j'aille à l'internat, mes parents pensent qu'il vaut mieux pas que j'aille à l'internat », là, c'est toi directement qui choisis. Du coup, est-ce que pour toi, ça a été comme une révélation qui ensuite, du coup, a continué de motiver certaines de tes prises de décision sur lesquelles on va revenir, que ce soit YouTube, ta relation à distance, sans rentrer bien sûr dans le deep, mais juste dans la forme, là où le jugement en gros peut s'immiscer d'autrui, tu vois, sur ce que tu fais, ou même, je sais pas, le crochet, l'arrêt de tes études, etc. Est-ce que ça, une fois que ça a été enclenché, ça t'a suivi pour toujours, ou est-ce que pour toi, c'est un travail qui est constant de réussir à se détacher de l'opinion des autres, surtout quand elle vient de tes proches?
Non, je pense que c'est un truc qui est vraiment constant, parce que tu te retrouves face à des décisions qui sont vraiment très différentes les unes des autres. Donc, tes réactions sont pas du tout les mêmes. Quand j'ai décidé d'arrêter mes études, je me souviens d'un moment où... j'étais babysitter, je gardais ce gamin, et ce gamin avait une mère qui était incroyable, que... Enfin, je t'ai déjà dit, je t'ai déjà parlé d'elle, elle était vraiment... Mais, enfin, c'était, pour moi, c'était vraiment un très gros exemple et un modèle de vie, quelque part, parce que... Elle avait beaucoup de succès et beaucoup d'échecs, mais elle avançait. Elle avançait et elle t'en parlait de façon tout à fait normale. Et c'est elle aussi qui m'a motivée, quelque part, à arrêter mes études. Pas, elle m'a pas dit « Arrête tes études, arrête-les !» Oui, c'est ça. Surtout qu'elle a fait des grosses études et tout. C'était pas du tout ça. Mais en fait, il y a vraiment ce moment. Tu vois, c'est comme l'internat. Ça m'a vraiment marquée. Il y a ce moment où je garde son gosse et puis j'étais vraiment pas bien. J'étais tout juste à mon début de vingtaine, je pense que j'avais 21, un truc comme ça. Et j'étais pas bien, j'étais vraiment pas bien, je me posais beaucoup de questions, j'avais beaucoup d'anxiété par rapport au futur, et ça me travaillait énormément parce que j'étais encore à la fac, je subissais la fac, clairement, mais j'avais pas envie de subir tout ça et tout, mais je continuais parce qu'il fallait, en fait, parce que c'était quelque chose que mes parents voulaient, parce que c'était la société qui disait qu'il fallait, donc je le faisais. Et mon entourage aussi, clairement, ils faisaient la même chose. Ils étaient dans des études, donc pour moi, c'était normal, en fait, de continuer là-dedans. Et puis, il y a ce soir donc, où la mère rentre, et moi, j'avais déjà couché le petit et tout, et elle voit que je vais pas bien. Elle commence à me connaître, ça fait 2 ans que je travaille chez elle. Elle voit que ça va pas du tout, et elle me regarde, et elle me pose juste la question « ça va ?» Et bien sûr, tu sais, c'est vraiment le cliché de « ça va ?» Et là, tu fonds en larmes, tu vois. Vraiment, c'était vraiment ce cliché-là, et elle me dit « Ok, viens, on va se poser. T'as le temps? Oui. Bon, bah viens, on va se poser. Je te sers un petit verre de vin. petit verre de vin rouge, je tiens à préciser, Juliette.
Mais il ne boit jamais. C'est pour ça que c'est assez fou ce qui se passe.
Vraiment. Bon, après, dans ma vingtaine, si, quand même.
C'est pas bien. Attention à boire.
Nuit à la santé.
Nuit à la santé. ça sortait pas très vite, hein, quand même.
Et ouais, du coup, elle me sert ce petit verre de vin comme ça, et on commence à parler de la vie, et elle commence à m'orienter au final, parce que bon, elle avait quand même une petite carrière de journaliste, tu vois, donc je pense que ça rentrait un peu dans le bail, où elle commençait à m'orienter et à me poser de vraies questions sur ce que je voulais faire, sur ce que je voulais pas faire, sur la vie en général, tu vois, et où en fait, elle me fait me rendre compte que vraiment, j'étais pas dans une situation que j'appréciais, qui me faisait me développer, me faire grandir, en fait, c'était pas du tout ce qui me fallait. Et elle m'a vraiment dit, en fait, elle m'a vraiment motivée à faire ce que j'avais envie de faire. Et c'est un moment que je garde vraiment dans ma mémoire, parce que autant, tu vois, c'était quelqu'un que j'appréciais et que je prenais vraiment comme exemple, autant il y avait quand même cette distance, entre guillemets, d'employé, tu vois, même si elle était très proche de moi et tout, il n'y avait pas de souci, il y avait quand même cette distance encore d'employé, d'adulte face à moi, que j'avais, et là, je l'ai vraiment pris en mode, en fait, c'est pas grave, tu vois, genre, là, elle est en train de me dire que, elle, tu vois, elle avait 40 ans à l'époque, elle est en train de me dire que si je trouve que ça, c'est un échec, et que j'ai envie de passer à autre chose, c'est pas grave, donc là, va falloir que vraiment, je prenne une décision, et donc, c'est elle aussi qui m'a donné confiance en moi pour cette décision-là, tu vois, donc, non, je pense que c'est pas une fois que t'as pris une décision, et une fois que t'as pris confiance en toi, que ça restera toute ta vie.
Et si là, du coup, tu vois, ça, en soi, toi, ça a marqué un bon tournant, et puis les faits, entre guillemets, aujourd'hui, l'attestent, donc c'est en ta faveur, mais, et je dis bien en ta faveur, parce que si ça s'était au final pas bien passé, ça ne voulait pas dire en rétrospective que ce choix d'arrêter les études était une mauvaise idée. Tu vois, dans tous les cas, ça te convenait pas, t'en as permis de te rendre compte, que ce soit fructueux ou pas, tu vois, YouTube ou quoi, que tu sois resté dans un taf alimentaire ou que t'aies fait autre chose, dans tous les cas, c'était bien parce que tu t'es écouté. Mais du coup, ce que je veux dire, c'est qu'en écoutant cette décision, en écoutant la parole donc, de cette femme, t'as pris ta décision, mais forcément, tu as rejeté l'opinion, les conseils de plein d'autres, que ce soit à une strate plus haute, celle de la société, tu vois, qui te dit « faites des études, parce que sinon vous n'allez pas trouver de taf, le marché de l'emploi est de plus en plus dur, tatati », ne pas avoir écouté l'avis de tes parents, qui, comme les miens, tu vois, ont toujours été très soucieux, et on peut comprendre en tant qu'enfant de « mais si tu ne fais pas d'études, mais qu'est-ce que tu vas faire tu ne veux pas t'assurer un petit bagage universitaire, quand même, sait-on jamais, juste une licence, tu vois ?» Truc comme ça. Donc, tu as rejeté toutes ces opinions-là, ça t'a servi à ce moment-là, tu vois, ça t'a servi à te rendre compte de ce que tu as envie de faire, pas envie de faire, t'es bien. Mais est-ce que, selon toi, il y a des fois où en rejetant cet avis, pas celui-ci forcément, ou peut-être, tu m'en diras des nouvelles, comme on dit, tu as fait des choses, du coup, que tu regrettes à l'heure actuelle. Tu vois, genre des... Alors que tu regrettes, c'est peut-être un grand mot, mais t'as à te dire, tu vois, j'aurais peut-être pas dû tout rejeter. Est-ce qu'il y a des choses comme ça que tu te dis ?
Non, et puis même, même en... En refaisant, tu vois, un peu la liste de mes échecs, entre guillemets, tu vois, que ce soit la fac ou quoi, parce que je le vois quand même comme un échec, tu vois, d'avoir arrêté mes études. Mais je le regrette pas. C'est vraiment pas des... Enfin, tu vois, je vois limite pas ça comme des échecs. Pour moi, tu vois, c'est un échec, mais c'est pas violent, tu vois. C'est vraiment pas l'image de genre, je me suis pris un mur. Ça m'a pas du tout fait cette sensation. Parce que quelque part, quand je prenais cette décision... Je savais que je le faisais pour quelque chose.
T'as eu une délivrance quand t'as pris cette décision. C'est peut-être pour ça que... Enfin, je vais pas orienter, mais... C'est peut-être pour ça que t'as pas la notion... Enfin, je suis complètement d'accord avec toi. Il peut pas y avoir la notion d'échec quand tu te sens aussi délivré de quelque chose que tu arrêtes, tu vois.
Ah oui, non, mais oui, c'est exactement ça. Je pense que c'est plus mes parents, tu vois, à ce moment-là, qui se sont pris un petit mur. Mais moi, non, pas du tout. C'est vrai que comme je me sentais très bien avec cette décision, même si quelque part, j'avais quand même peur, hein, j'avais quand même de l'anxiété. Est-ce que ce choix, je vais pas le regretter plus tard et tout. Pour l'instant, ce n'est absolument pas le cas. Mais je sais pas, j'en sais rien, tu vois, parce que c'est vrai que quand t'as 30 ans et plus, reprendre des études, c'est une décision qui est encore compliqué et puis qui prend du temps et t'as pas forcément la même mémoire, tout ça. Donc je me disais, est-ce que vraiment j'aurais la foi de reprendre plus tard? Et déjà à l'époque, je me disais non, en fait, parce que j'aime pas les études, je suis pas faite pour les études, tu vois. Donc au bout d'un moment, faut arrêter de mettre dans le crâne que à tout moment tu peux reprendre tes études et tout si j'ai pas envie, tu vois. Donc non, c'est, enfin, il y a rien que je regrette et il y a rien que je vois comme un échec, en fait.
OK. Et est-ce que du coup, à l'inverse, parce que je trouve ça intéressant, tu peux me dire ce que ça t'a apporté de ne pas te restreindre au bon jugement de la société, de tes parents, de peu importe. Qu'est-ce que ça t'a apporté, en exemple concret ou en plus large ?
Je pense que globalement, ça m'a apporté déjà une certaine liberté que les autres n'ont pas forcément et clairement de la créativité. Parce que, en fait, ça t'offre le temps de penser, ça t'offre le temps d'essayer des choses, de savoir ce que t'aimes faire ou pas d'ailleurs, parce que c'est important aussi de savoir ce que tu n'aimes pas faire. Et ça m'a vraiment apporté cette espèce de calme-toi, genre tranquille, tu vois, genre vas-y, prends le temps maintenant de découvrir en fait qui tu es, ce que tu veux faire éventuellement, et pas le faire forcément toute ta vie, tu vois. Parce que c'est vrai que moi j'ai vu aussi mes parents qui ont changé de métier, tout ça, tu vois. Donc je suis dans un environnement où mais c'est pas grave, t'es pas bloqué en fait dans ce que tu fais actuellement. Donc c'est vrai que je sais que j'ai des possibilités, pendant toute ma vie j'aurai des possibilités de travail, de changer de ce que je fais, ce que j'aime, de hobby, de passion, tu vois, tout ça. Je sais que je peux le changer. Donc en vrai, ça m'a vraiment apporté une sorte de c'est pas grave, tu vois. Genre le feeling de t'arrêtes, mais c'est parce que tu vas commencer quelque chose d'autre. Tu t'arrêtes pas, ta vie s'arrête pas là, tu vois. Genre, elle va continuer et tu vas découvrir ce que tu peux faire, en fait, de tout ça.
T'as dit quelque chose que je trouve très intéressant et qui, d'ailleurs, assez curieusement rejoint la question qui suit. C'est que t'as dit une phrase que je trouve très pertinente en disant, quand tu te libères de l'impact que va avoir la vie des autres, tu te libères, en fait, plus de place pour penser pour toi, tu vois. Et c'est censé. C'est comme, pour prendre un autre exemple qui n'a rien à voir, mais dont on parlait la dernière fois, quand on arrête d'avoir notre téléphone, enfin d'être sur notre téléphone, ben d'un coup, on a plus de place, logiquement, à penser à des choses qui vont se ressentir sur nous, ou être plus créatif, à se dire, ah bah tiens, vu que je suis pas sur mon tel, qu'est-ce que je peux faire pour m'occuper ? Bah je vais lire, je vais rien faire parce que j'ai envie de rien faire, je vais tricoter, je vais faire du crochet. Voilà, petit exemple. Mais c'est exactement ça. Et justement, quand tu t'es libéré du jugement d'autrui, quand il est irrelevant, je sais même pas ce que c'est le mot français, inopportun, quand il est pas nécessaire, voilà, on va faire normal, comment tu es parvenu à ensuite, comme tu en parles, appliquer ce non-jugement à toi. Et comme tu disais, tu vois, genre à commencer des choses, à en arrêter d'autres. Et ça peut être autant, tu vois, genre en termes d'activité. Bien sûr, il y a l'exemple de toi qui t'es mise au crochet. Et de te dire, bah, je vais prendre le temps. Ça va prendre le temps de m'y mettre. J'ai pas encore d'aspiration professionnelle dans le truc. Je veux juste me faire kiffer. Comment, tu vois, t'as eu ce non-jugement dans le fait de te libérer de ce non-jugement envers toi-même pour bah, lancer ta boutique. Parce que comme je disais, May se met au crochet, tu nous en parleras, mais c'est quoi, un an et demi après, tu lances ta boutique, deux ans après, un an et demi d'après, tu lances ta boutique, comment t'as trouvé ce courage? Parce que moi, tout de suite, quand tu m'en as parlé, bien sûr que moi j'ai foi en ma pote, tu vois, je sais les créations qu'elle fait, qu'elles sont hyper quali et tout, mais j'arrêtais pas de me dire, mais comment elle trouve cette forme d'audace et de courage? Parce que moi, j'aurais été juste terrorisée de me dire, mais personne va acheter mes peluches, personne, tu vois, genre, comment t'es arrivé à avoir cette liberté par rapport à toi-même de te lancer dans ça, d'être très autodidacte et de prendre le temps de découvrir, d'apprendre, et aussi d'avoir ce relâchement dans tes relations professionnelles, amoureuses, amicales, tu vois, de te dire, en fait, c'est pas grave, je fais, on verra.
En fait, j'y pense pas, sincèrement. Hein. Tu vois, c'est là qu'on voit genre la différence entre quelqu'un qui a tendance à être anxieux, tu vois, et les gens qui ne le sont pas du tout. C'est que moi, je me pose les questions après, je pense. C'est pas forcément bien, hein, des fois, ça peut porter préjudice. Hein. Mais en fait, il y a ce côté où vraiment, quand je fais quelque chose, je le fais parce que j'aime faire ça, tu vois. Genre, c'est quelque chose qui m'anime. Et du coup, je me dis, si ça suit, bah tant mieux. Si ça suit pas, bah vas-y, on switch, tu vois. On fait quelque chose d'autre, on trouve une autre passion. Et même, tu vois, ça, genre, franchement, si le crochet n'avait pas fonctionné, je pense qu'en vrai, j'ai eu un peu de chat, tu vois, d'un côté. Ah ouais ? Parce que, oui, parce que je pense que le crochet, à ce moment-là, c'était de nouveau en vogue, quelque part, tu vois. Genre, il y a eu un pic, comme ça, au moment où vraiment j'ai pris mon crochet. Je pense qu'il y a eu un espèce de truc où, bah, tu sais, on était à la fin du Covid, les gens commençaient à être un peu plus crafty, à se dire, vas-y, on va trouver des nouveaux hobbies et tout. Uh-huh. Et il y a eu ce côté où il y a eu une forme de recherche de créativité, de retour au manuel, tout ça, tu vois. Et donc j'ai un peu eu de la chance parce que je l'ai fait juste parce que ma mamie elle m'a dit vas-y on fait du crochet tu vois à ce moment-là et j'étais pas du tout dans le mood en mode je vais faire du crochet pour faire un business pour machin tu vois et pas du tout dans le truc où genre en mode vas-y le crochet en ce moment c'est mainstream on va faire du mainstream tu vois genre non je m'en battais les couilles donc le truc c'est que j'ai commencé je savais pas où ça allait j'ai commencé à faire des petits trucs voilà oh regarde Lou j'ai fait un pull. Et
des petits trucs. Oh regarde-moi, j'ai fait un pull, je crève. Pardon, excusez-moi, mais j'ai fait une écharpe, elle est trouillée entre une constellation et oh je vois un petit truc, je fais un pull. Regarde-moi, je sais pas. Oh, j'ai un petit truc, je fais la tour de Pise. Oh, t'as la fille qui va trop loin. Ouais, vas-y, continue, ouais.
Note à moi-même, ne plus jamais inviter Méline pour parler d'un sujet. Pardon.
Non mais ça va, je dis un pull, mais c'était très certainement un bandeau pour les cheveux. Hein,
voilà, merci, voilà. Merde.
Mais du coup, avec ça, tu vois, genre, c'est aussi Lou, tu vois, quelque part, qui me motive et qui me dit « Oh purée, ce serait trop bien si tu faisais une boutique, oh purée, ce serait trop bien si tu commençais à vendre des trucs sur Vinted, tu vois. » Et moi, genre, il y a quand même des gens autour de moi qui me mettent les graines, tu vois, genre, dans ma tête et qui me disent « Vas-y, why not, tu vois, ce serait peut-être pas une bête idée, tu vois. » Et je pense que c'est aussi ça qui me fait me dire, genre, en mode, bah, pourquoi pas, tu vois, si Lou, elle le dit, quelque part, je pense qu'elle a raison, tu vois, parce que je prends, par contre, l'avis de Lou, tu vois, il est très, très important pour moi, et c'est quelque chose, genre, en mode, je sais sincèrement pas si j'aurais eu l'idée, moi seule, de faire tout ça.
Et justement, est-ce que parfois, t'as été confrontée au jugement des autres personnes? Parce qu'en gros, ce que je vais essayer de dire, c'est que May, au-delà de sa sœur, c'est quelqu'un de très empathique. T'es très empathique avec beaucoup de gens. Dès qu'on compte un tant soit peu dans ta vie, je dis bien un tant soit peu, tu vas être très empathique, tu vas être très à l'écoute. Littéralement, notre début d'amitié le confirme. On se connaissait que très très peu et t'es resté 5 heures avec moi en FaceTime pour résoudre un problème électronique de chaîne de piraterie. Enfin bref, ce que je veux dire, c'est que t'es très investi. Et comment tu parviens ou comment, selon toi, on peut écarter le poids émotionnel que ça représente, la vie des autres, par exemple celui que pourrait représenter ta sœur. Et j'imagine que ça s'est déjà présenté, tu vois, que Lou, dans toute la grâce que Dieu lui a donnée, puisse parfois se gourer ou être très abrupte dans des conseils, des avis qu'elle a, puisqu'on est tous pareils, hein, on n'est pas parfaits dans l'accompagnement de nos proches. Comment, ouais, t'arrives, en étant quelqu'un de très empathique, de très proche des gens que tu aimes, d'écarter cet impact, tu vois, sur, je sais pas, ce que tu fais professionnellement, en passion, ton mec, tes potes.
En fait, moi, j'ai tendance à... Je suis empathique, tu vois, mais c'est vrai que quand on va me dire quelque chose qui n'est pas forcément positif, genre quand on va me donner un avis négatif, la première chose que je vais faire, je pense que c'est pas forcément fou, mais je vais me braquer, tu vois. Et bah, enfin, ça, c'est mes vieux démons du quand j'étais ado, hein, tu vois. Mais j'ai appris à le gérer, tu vois. Je vais pas te montrer, genre, en mode, je suis braquée, tu vois. Genre, tu vas pas le voir sur ma tête comme ça. Mais
je vais. Si tu fasses comme ça, moi, je vais pas
le voir. Je suis braquée. Juliette, arrête, je suis braquée. Je veux voir. Non, en fait, je me braque, mais derrière, tu vois, je vais réfléchir à ce que tu m'as dit. Genre, je vais pas te montrer forcément que je me suis braquée et que ça me touche ce que tu m'as dit, tu vois. Même si c'est de la manière la plus soft possible et la plus gentille façon de le dire, tu vois. Genre, il y a un moment où je vais me poser vraiment des questions, genre en mode, mais je suis pas d'accord avec elle et tout, mais bon, faut quand même que j'y réfléchisse. Faut quand même que je me pose et tout. Et l'autre truc, c'est que, en me braquant comme ça, tu vois, je vais faire de cet échange une sorte de conflit dans ma tête. Pour moi, tu vois, ça va être comme si on avait eu, genre, une petite dispute, tu vois, entre guillemets. Mais comme je suis pas rancunière du tout, tu vois, genre je vais très vite passer à autre chose. Donc ça veut dire que je vais réfléchir à ça et je vais me dire, mais en fait c'est trop bête, Maëline, t'es en train de te monter la tête pour que dalle, tu vois. Et encore, me monter la tête, c'est un grand mot, je pense, tu vois, parce que je suis pas non plus en train de me poser 10 000 questions sur mon lit comme ça, genre en PLS, tu vois. Mais je vais y penser et je vais me dire, en fait, faut que je passe à autre chose parce que ça sert à rien, tu vois. Genre, la personne en face m'a donné son avis, son opinion, ou juste m'a parlé, tu vois. Et c'est comme ça, genre les gens, ils ont le droit aussi d'avoir leur avis, ils ont le droit de s'exprimer, tu vois, et ça sert à rien de laisser leur humeur ou la tienne, tu vois, l'emporter sur cette discussion que vous avez eue de façon tout à fait normale, tu vois. Donc c'est aussi ce côté-là où, genre, en mode, comme je suis pas rancunière et comme je suis pas tout le temps dans la réflexion de l'autre, tu vois, j'ai quand même ce recul où je me dis, ça ne sert absolument à rien d'absorber, tu vois, quand même trop les émotions des autres, tu vois. Même si je vais le faire, avec certaines personnes, je vais le faire, tu vois, je suis une éponge.
Donc pour toi, c'est vrai que c'est quelque chose donc, que tu peux pas expliquer parce que c'est spontané. Genre, tu peux pas donner la clé de comment le ressentir de manière spontanée. Par contre, comme tu dis, c'est qu'il y a un moment où tu ne peux pas te mettre toujours à, comment dire, à la place des autres, mais genre, pas dans le sens empathique, mais dans le sens à te bouffer toi. Tu peux pas toujours tout le temps te projeter dans, mais qu'est-ce qu'il a voulu dire par tel mot, qu'est-ce que ça signifie, et puis pourquoi il a dit en réaction à, enfin, il ou elle a dit ça en réaction à toi. Donc, pour réduire l'impact émotionnel, que cette personne ait tort ou raison, tu essaies le plus possible de prendre ce que tu as à prendre, mais de ne pas réfléchir au-delà. C'est ça, toi, ta solution de tranquillité que t'as de manière assez spontanée?
Ouais, je pense que c'est ça, ouais. Je prends ce qu'il y a à prendre. Le reste, c'est soit, genre, si ça me reste vraiment dans la tête, tu vois, si c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, a un impact qui reste dans ma tête, c'est qu'il y a quelque chose à creuser. C'est que je dois en parler, en fait. Et ça, enfin, genre, je manque de skills de communication de fou, tu vois, là-dessus, c'est clair. Mais je vais quand même aller voir la personne et voir ce que je peux tirer, en fait, de tout ça, tu vois. Parce que si ça se trouve, c'est mal interprété, c'est un quiproquo, on s'est pas compris, tu vois. Si ça se trouve, c'est quelque chose qui est juste dans mon cerveau pour absolument aucune raison. Et c'est souvent le cas, d'ailleurs, tu vois. Donc, moi, je vais juste prendre ce qu'il y a à prendre. Et le reste, bah, écoute...
Justement, que fais-tu quand tu fais face, alors là, avec un exemple très, très, très précis, tu vois, cette tranquillité, cette spontanéité que tu as à avoir de recul, comment tu l'as, par exemple, face à des gens qui ne t'apprécient pas? Quelle clé, en fait, tu donnerais? En fait, je pose cette question parce que c'est une question que je t'ai largement posée, que je t'ai posée encore il y a 3 jours. ouais, de comment tu arrives à être tranquille avec l'idée que certaines personnes ne t'apprécient pas, que ce soit dans la vraie vie, on va dire, que sur celle médiatique. Quelle clé, en fait, tu donnerais à un jeune dans sa vingtaine qui a peur d'être qui il est parce que ça pourrait impliquer, en fait, qu'il perde des gens de ses amis, de ses amours, de sa famille. Comment tu vis ça? Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Comment tu l'as vécu?
Pour moi, en fait, ceux qui restent pas, ceux qui partent, en fait, enfin les amis qui partent parce qu'il y a conflit, parce que tu prends une décision, parce qu'il y a des changements dans ta vie et qu'ils ne l'acceptent pas, pour moi, ce ne sont pas des amis. Tu vois, genre, je considère mes amis quand ils iront contre vents et marées pour moi, tu vois. Et même si, enfin, genre, en mode, toi, tu peux ne pas être d'accord avec une décision que je prends, tu vois. Mais je pense que tu ne me lâcheras jamais.
Si, j'attends le premier moment, mais bref, on en parlera dans un autre podcast où elle sera pas là.
Le vrai masque de Juliette tombe.
Non mais tu vois ce que je veux dire, genre toi tu vas prendre une mauvaise décision, je serai toujours derrière ton cul à te dire ok je suis pas d'accord tu vois, mais tu restes mon ami, tu seras toujours mon ami, quoi qu'il se passe tu vois, genre même si on s'éloigne, même si pendant 6 mois on ne se parle pas, 6 mois, 1 an, 6 ans je m'en fous, tu resteras toujours profondément mon ami tu vois, et pour moi c'est quelque chose qui est important à savoir, c'est que les gens qui partent comme ça juste sur une décision que toi tu as prise, ben c'est pas des amis. C'est pas des potes, je suis désolée, c'est pas des potes. Et s'ils te jugent sur quelque chose comme ça, à part bon, si c'est des dingueries, hein, si c'est des décisions qui sont complètement saines, entre guillemets, pour moi, genre ton entourage, il se révèle à ce moment-là, justement.
Et comment tu fais quand ce sont des choses, entre guillemets, pas que tu maîtrises moins, mais sur lesquelles tu peux moins te reposer, même si oui, tout est bancal dans la vie, on peut être pessimiste et dire aucune relation est éternelle, etc. Comment tu fais quand tu rencontres des gens avec qui t'as pas ce côté inconditionnel, tu vois, d'amitié, d'amour ou ce que tu veux, qui t'apprécient pas, comment t'arrives, parce que je spoil, comment t'arrives à t'en foutre, tu vois, et tu m'as toujours dit, bah, même pas, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Tu vois, pareil, je repose la question à quelqu'un qui ne se la pose pas. Voilà, c'est ça en fait tout le problème de ce podcast. Mais c'est ça le truc. Mais comment t'arrives à bien vivre ce relâchement de, tu vois, parce que pour moi, c'est pendant longtemps. Encore une fois, j'évolue maintenant et tu m'aimes pas, bah tant pis. Et je suis plus dans l'extraverti que je pouvais être, dans le show de je vais tout faire pour que les gens m'apprécient, je vais être drôle, je vais être charismatique à certains moments et un peu mystérieuse à d'autres, même si c'est très compliqué pour moi. Mais ouais, comment t'arrives à te dire je m'en fous?
En fait, le truc, c'est que la plupart du temps, tu vois, les gens qui ne m'aiment pas, je ne les aime pas non plus, tu vois. C'est quelque chose qui est réciproque. En général, oui, c'est ça. Enfin, j'ai jamais rencontré quelqu'un genre qui m'aimait profondément, qui me détestait profondément, tu vois, mais que j'aimais profondément. Enfin, c'est pas possible, tu vois, à part dans une relation amoureuse toxique. mais sinon, c'est quelque chose qui est une fois encore spontané, tu vois. Je vais pas aller chercher l'amour de quelqu'un qui ne m'aime pas. Enfin, pour moi, ça n'a pas de logique, tu vois. Genre, courir après quelqu'un qui logiquement qui est indifférent à toi, ou alors qui justement tout le contraire te déteste, tu vois, je n'en vois pas l'intérêt, tu vois, je passe à autre chose, parce que pourquoi je perdrais mon temps avec toi si on ne s'entend pas, si tu vois, genre on n'a pas d'intérêt commun, on n'a pas la fibre amicale, tu vois, il y a rien entre nous, donc pourquoi je vais perdre mon temps avec toi et parler avec toi et essayer de trouver pourquoi tu m'aimes pas, nanana, mais je m'en fous. C'est pas grave, genre moi je suis comme je suis, tu m'acceptes pas comme je suis, je ne t'accepte pas comme tu es. On s'arrête là en fait, ça sert à rien de perdre du temps, tu vois.
En fait le truc qui se dégage, dis-moi si je me trompe, c'est de plus reposer ton amour, à la rigueur, parce qu'on a tous des besoins de validation d'autrui, de nos partenaires amoureux, amicaux, etc. Mais c'est de plus en effet le baser sur des gens avec qui tu sais que tu n'as pas approuvé, enfin avec qui tu sais que c'est réciproque. Mm-hmm. Et que tu vas pas chercher un besoin de validation chez des personnes dont tu te fiches, parce que comme tu dis, en général, les personnes qui ne nous aiment pas profondément, on les aime pas profondément, tu vois, c'est assez réciproque ce sentiment. C'est vrai que moi, par exemple, je reviens à ça en parallèle, justement, en miroir, c'est que j'allais encore plus prouver aux gens qui m'aimaient le moins, tu vois, c'était encore plus un challenge, parce que je me dis, si cette personne finit par me valider, j'ai tout gagné, tu vois, et je ne comprenais pas. Parce que pour moi, j'étais tellement toujours dans un standing de « mais je fais le mieux, pourquoi, en fait, comment les gens ne peuvent pas m'aimer alors que je donne le meilleur de ma personne ?» Et en fait aussi, toi, ce qui se dégage, c'est que il y a aussi une question de « on a tous des défauts, on a tous des choses que certaines personnes ne vont pas aimer, comme nous, on n'aime pas certaines choses chez des personnes, sans qu'elles soient mauvaises, hein. » Voilà, il y a des personnes, quand on dit « je suis désolée, ta tête, elle me revient pas », elles nous ont rien fait, mais c'est juste comme ça, c'est des ressentis qu'on a. Et en fait, toi, pour, entre guillemets, être tranquille avec l'idée que certaines personnes ne t'apprécient pas, c'est parce que tu reposes ton besoin de validation, si tant est qu'il y en ait un à certains moments, sur les gens qui t'aiment. et aussi de te dire ben bah, ouais ça arrive et faut pas chercher à forcer en gros le pas jusqu'à dire l'admiration mais la relation avec autrui. Eh bien merci pour... Je suis toujours nulle pour faire des intros, c'est infernal. Bisous les copains. Non, écoute, en vrai, merci beaucoup pour ton intervention. J'espère qu'elle fera du bien à beaucoup, qu'ils soient jeunes, pas jeunes. Voilà, merci beaucoup à May. N'hésitez pas à checker, bien évidemment, la chaîne YouTube, le Instagram des filles qui sera en description. Et la boutique, à chaque fois, je fais genre, elle va être réapprovisionnée juste à la sortie d'un truc qu'on a fait toutes les deux, alors que c'est pas du tout encore prévu, mais la boutique, la bise sur Internet, dans l'interweb.
L'interweb.
Voilà. Ça t'a plu, May ?
Incroyable.
Merci beaucoup. Bon, prenez soin de vous jusqu'à la prochaine interview.
Juliette, tu viens de me demander mon avis, là, non ?
Je m'en fous ! Je m'en moque ! Ça m'est égal ! Prenez soin de vous et je vous fais des grosses bises. Bisous !